18h-19h, Time Sport, avec Bilal Nenman sur Beurre FM.
Et aujourd'hui, sur Beurre FM et sur Time Sport, vous allez forcément être avec nous pendant une heure et on va parler de la Ligue 1, on va parler du PSG, notamment d'Adrien Rabiot. On va parler également de Tony, avec Tony Son, du management de carrière de sportif. On va parler aussi de Leonardo Jardim, qui est encore présent à Monaco et qui aimerait justement passer par un nouveau club français. Et enfin, on parlera de Ancelotti, qui affirme « Je dois tout à Zidane ». C'est parti pour une heure de sport.
Time Sport.
Et pour nous accompagner aujourd'hui dans le studio, Saïd Amdar. Comment ça va, Saïd ?
Ça va super, toujours un plaisir d'être parmi vous.
Mehdi Perplex, comment ça va, Mehdi ?
Ça va très bien, et vous ?
Et Claude Tollet, comment ça va, mon cher Claude, notre cher coach national ?
Je savais que la montagne et la neige, je suis là, ça va très bien, impeccable. Bonsoir à tout le monde.
On va commencer par le ras-le-bol et par la Ligue 1 et le PSG.
Time Sport, le ras-le-bol.
Et pour commencer, justement, invité à s'entraîner avec l'équipe de réserve par la direction du PSG, Adrien Rabiot a saisi la commission juridique de la LFP, la Ligue française professionnelle, pour contester sa mise à l'écart. Alors qu'il refuse de prolonger, Adrien Rabiot est écarté du groupe professionnel pour le moment, et une situation qui expose le PSG à des sanctions. Selon l'UNFP, Adrien Rabiot étant un cas symbolique compte tenu de son statut et du club où il évolue, il semblerait qu'il finira par réintégrer l'entraînement du groupe pro. Cependant, que fait-on des autres joueurs professionnels soumis au même traitement dans des clubs un peu moins médiatisés, notamment Yanga Mbiwa à l'Olympique Lyonnais, et contraints de subir cette mise à l'écart sans aucune sorte d'aménagement ? Saïd.
Bon, bah déjà, je pense que c'est une partie de bluff du PSG. Au-delà de l'inviter à s'entraîner avec la réserve, c'est plus un message qu'on a voulu donner à Adrien Rabiot. Le PSG est parfaitement conscient que c'est illégal. Il l'avait fait en 2017 avec Atem Ben Arfa. Donc, c'est pas une première du PSG. Atem Ben Arfa avait gagné son bras de fer, donc il était revenu s'entraîner avec le groupe pro. À mon avis, l'histoire va se répéter avec Adrien Rabiot. Il a apporté plainte, il a apporté réclamation à la commission de la LFP. Ils vont passer en commission, le PSG va se défendre, mais le PSG va très probablement perdre. Ils vont le réintégrer au groupe, mais c'est juste histoire de lui dire que t'es vraiment un paria, qu'on compte pas sur toi, et voilà, vraiment lui donner plus un coup au moral qu'autre chose, puisque Adrien Rabiot en plus a eu la réaction que le PSG espérait. Il a écrit une lettre en demandant à être immédiatement réintégré, que le PSG faisait dans l'illégal, etc. Pour moi, c'est plus un coup de com' pour dire à Adrien Rabiot, on te méprise plus que tout qu'autre chose.
On va demander à notre coach, notre emblème, l'emblème de cette émission, Coach Tollet, que penser notamment de Adrien Rabiot, qui conteste, qui a saisi la commission juridique de la LFP pour contester sa mise à l'écart au Paris Saint-Germain.
Guillaume, pourquoi on le met à l'écart ? On le met à l'écart parce que on n'a pas tous les éléments, mais visiblement, il y a des négociations qui ont été rompus, qui ont duré depuis des semaines, voire des saisons avec son club formateur, qui n'ont pas abouti. Donc on sait que le PSG aimerait récupérer une masse financière sur son joueur. Lui n'est pas satisfait de ce que le PSG lui proposait. Donc t'en viens à ce que son club le prive d'équipe première, etc. Donc Adrien Rabiot a raison de saisir. La commission, ce qu'est la commission d'ailleurs, là j'ai un trou.
La commission juridique de la LFP.
Normalement, c'est dans un cas où tu sais, t'as un joueur qui respecte pas, le règlement intérieur, etc.
Dans ce cas-là, comment on fait ? Parce qu'il
n'y a aucun problème. Il n'y a aucun souci. Aucun souci de comportement sportif ou autre.
Mais la question qui se pose, c'est surtout
pourquoi déjà l'avoir mis à l'écart ?
C'est surtout C'est surtout avec les clubs moins médiatisés et moins monétisés que cette question se pose. Notamment, on parle également du cas à l'instant de Yanga Mbiwa à l'Olympique Lyonnais. Évidemment, c'est quand on joue au Paris Saint-Germain et quand on a également le statut qu'a Adrien Rabiot.
C'est quoi le souci avec Yanga Mbiwa ? C'est que clairement Montpellier, Lyon ne comptait plus sur lui. Son agent a dû essayer de trouver, de faire toute l'Europe pour trouver preneur. Comme t'en trouves dans tous les clubs, malheureusement, après, le coach a le droit de dire on ne compte pas sur toi. Et il est là. Rabiot, c'est un cas différent.
C'est pas une décision du coach. Pour Rabiot, pour le coup, c'est une décision du Paris Saint-Germain.
Exactement,
la décision
mais ça
vient
reste
de
deux
plus
cas
haut.
Ça reste
c'est deux cas différents. En fait, pour Mbiwa, mais ça, c'est pas arrivé qu'à Mbiwa, ça arrivait à Mavuba.
À plein de joueurs.
Ça arrivait à Inyama, quand ils étaient à Lille. Ils ont tous, sont tous passés par la case réserve, mais ce sont des joueurs qui n'étaient pas contents de leur situation, mais qui ne se sont pas plaints. Pour le coup, là, Rabiot, lui, s'est plaint et c'est différent parce que lui, il est encore très en forme dans la compétition et c'est pas légitime d'un point de vue sportif de le sortir. Certes, il y a ces histoires de contrat, et je vais te laisser terminer rapidement, il y a ces histoires de contrat, mais pour moi le PSG vraiment a voulu passer plus un message qu'autre chose.
Claude, tu voulais peut-être faire passer un autre message, ouais, justement, non, je te sentais lancé là.
Passer un mauvais message pour moi, et puis après faut savoir que les clubs professionnels sont normalement, doivent laisser leurs joueurs sous contrat s'entraîner, même s'ils ne comptent pas sur eux sportivement. À partir du moment où il n'y a pas de soucis disciplinaires, ils doivent faire partie du groupe, du moins à l'entraînement. Après, qu'ils ne les prennent pas le vendredi soir ou samedi, dimanche, c'est autre chose. Ils doivent faire partie du groupe pour s'entraîner.
Il y a des règles dans le foot français qui protègent ce genre de joueurs. Quand on les envoie en réserve, ça peut être que à durée déterminée, ça peut être que temporaire. On ne peut pas cloîtrer quelqu'un en équipe réserve quand il est pro. Donc ça, c'est vrai que c'est l'avantage dans le foot français. On ne peut pas forcer un entraîneur ou une équipe à faire jouer un joueur, puisque là, ce sont des choix sportifs. On ne peut pas imposer quelqu'un, mais on peut au moins imposer qu'il ait accès aux structures du club et qu'il ait accès à toutes les... comme tous les autres professionnels, en fait. Donc, il va réintégrer le groupe pro comme ce qu'avait pu avoir Ben Arfa.
Si vous nous rejoignez sur Beurre FM et sur Thaï Sport, on parle de la Ligue 1, du Paris Saint-Germain, notamment de Adrien Rabiot, qui a saisi la commission juridique de la LFP pour contester sa mise à l'écart au Paris Saint-Germain. D'ailleurs, je rappelle que vous pouvez donc réagir au 01 53 48 30 00 ou avec le hashtag Thaï Sport sur Twitter et sur Facebook. On continue d'en parler avec notre consultant Mehdi. Mehdi, le Parisien explique que la commission juridique de la LFP n'a pas perdu de temps. Elle se réunira dès ce mardi pour analyser le dossier Rabiot au Paris Saint-Germain. Elle pourrait demander la réintégration immédiate du joueur et infliger au PSG une amende de 20 000 euros. Le PSG, de son côté, plaide le passage de Rabiot en réserve pour une remise à niveau physique. Apparemment, le PSG et Rabiot, ils ne sont pas sur la même longueur d'onde. Hein.
Disons que là, on a Rabiot qui on peut même l'appeler le gilet jaune du Paris Saint-Germain. Hein. Ça, c'est une expression que je me permets, mais bon, maintenant derrière,
on te le permet, hein.
Je me permets. Non, mais si tu regardes bien, il y a un problème avec Rabiot, ça fait longtemps. Maintenant, le PSG, la direction en ont assez. Voilà, ils prennent des choix. La LFP, elle va donner son, donc mardi, ils comptent se réunir, rendre une réponse très rapidement. Ça va aller vite. On parle de la semaine prochaine, donc ça va aller très vite. Maintenant, derrière, est-ce que le PSG peut pas refaire un appel et faire traîner les choses? 20 000 euros, je pense que c'est pas grand chose pour le PSG. Quitte à faire, je pense pas que si derrière il faut qu'ils se prennent une amende, encore une autre amende, pour juste écarter le joueur du groupe, parce que oui, c'est une punition peut-être.
Non, mais à un moment donné, je pense que la LFP augmentera l'amende. Ils vont pas payer 20 000 euros par semaine jusqu'à la fin, juste pour que Rabiot s'entraîne avec la réserve.
On a compris, bien sûr.
Pas pousser jusque là.
Mais après, s'ils veulent plus de lui dans l'équipe.
Non, mais il s'entraînera avec
peut-être
les pros,
pour d'autres
mais ça
raisons.
Ne change rien.
Ouais, peut-être pour voilà. D'autres raisons aussi. Peut-être qu'il perturbe le groupe aussi.
Je te l'ai.
Il faut savoir, de toute façon, mercato hivernal terminé, donc 31 janvier, les joueurs sont de toute façon même indésirables, retrouvent le groupe pro quoi qu'il arrive. Donc normalement, ils devraient retrouver le groupe pro s'il n'y a pas de transfert d'ici les prochains jours.
On pourra d'ailleurs poser la question à notre invité dans quelques minutes, Tony Sonde, cofondateur de AC Link, une agence de management de carrière de sportifs. Donc voilà, on pourra lui poser cette question. Et donc, c'est comment, voilà, finalement, on va sortir comment de ce dossier Rabiot au Paris Saint-Germain? Est-ce que ça va se clôturer, comme le disait Mehdi à l'instant, très rapidement, justement, 20 000 euros, c'est pas grand-chose, ou le Paris Saint-Germain a également la possibilité de faire appel?
Non, je pense que le Paris Saint-Germain ne paiera pas des amendes indéfiniment. En plus, surtout que la LFP ne va pas jouer à ce petit manège. S'il paye 20 000 euros la semaine prochaine, ce sera le double et ainsi de suite. Et Paris ne va pas jeter non plus son argent par les fenêtres. Surtout si c'est juste pour interdire Rabiot de s'entraîner avec le groupe pro. On n'est pas à la maternelle non plus. Là, ils ont voulu faire passer un message pour montrer à Rabiot qu'il ne représentait plus grand-chose pour le club. Ça va se régler la semaine prochaine et on va passer à une autre étape. Maintenant, il y a deux issues pour Adrien Rabiot. Où il s'en va dès maintenant, et il donne une petite compensation financière un petit peu ridicule pour le Paris Saint-Germain, 5-10 millions, et il va soit au Barça, ou peut-être pas Tottenham, parce qu'apparemment c'est pas assez haut pour lui. Mais voilà, il va dans un autre club, ce qui est très peu probable, soit il va finir la saison avec le Paris Saint-Germain, et donc a priori, il devrait pas jouer, à moins que Tuchel ne mette la pression sur le club, puisque Tuchel a dit que si on ne recrute pas de 6, je me réserve le droit d'utiliser Rabiot, surtout en Ligue des Champions, où on aura besoin de ses qualités. Alors certes, la victoire ne va pas passer par Rabiot. Si Rabiot est là, on ne va pas nécessairement gagner, mais c'est quand même un atout. Donc aujourd'hui, voilà, ce sont les deux solutions les plus crédibles qu'on puisse avoir. Ou la dernière, on va dire, c'est que Rabiot ne joue pas, même si il y a pas de 6 au PSG, c'est qu'on se prive de lui un petit peu de façon bête et qu'on finisse la saison sans lui. Et lui, il va aller à partir du 1er juillet dans un autre club avec 6 mois de compétition dans les jambes en moins.
Alors apparemment, le Paris Saint-Germain ne semble pas vouloir aller au bras de fer comme il l'avait fait justement dans le dossier à Tem Ben Arfa, qui n'avait bénéficié lui d'aucune clémence et ou d'assouplissement dans ses relations avec la direction parisienne. Pourquoi ces deux poids deux mesures selon vous? Ça varie des joueurs. Ça varie selon le joueur. Comment on peut l'expliquer, Claude?
Oui, ça dépend. Là le cas de Rabiot, clairement, voilà, tu sais que c'est un international français.
Un ex-international français.
Tant que Deschamps est là,
il reste international français.
Oui, bien sûr,
il a pas mis un terme à sa carrière internationale.
Au même titre que Ben Arfa aussi, il était international français.
Le rencontrer, voilà. Parenthèse, mais
grosse parenthèse.
Tu as dit qui?
Le Gret,
ouais. Oui, mais bon, le Gret.
Ouais. Il y en a pour moins de ça qui ont été évincés. Mais après oui, là, il y a une question de statut, PSG, joueur français. Je rejoins Saïd aussi. Tu sais que il peut clairement apporter. T'as Verratti qui est blessé, donc il sera forfait déjà pour Manchester.
La question se pose, bien sûr.
Voilà,
bien
sûr. T'as pas de 6 pour le moment qui a été recruté, même s'ils sont sur 2-3 joueurs quand même. Plutôt intéressant.
Oui, il reste quelques jours de mercato, ouais. Je pense que ça peut se faire.
Ça devrait quand même se faire, mais voilà, faut le faire. T'as Marquinhos que t'es obligé de jouer, de faire jouer, même s'il a apporté satisfaction.
Très bon.
Bricolage quand même, donc bon, voilà.
Mehdi.
Écoute, moi, Marquinhos, je le trouve très bon à ce poste. Maintenant, concernant Rabiot, on connaît le personnage. Je pense qu'il agace beaucoup la planète football. Et même les supporters, hein, ne serait-ce que même les supporters. Déjà, ce qui s'est passé avec l'affaire en équipe de France où monsieur n'acceptait pas son statut de possible remplaçant.
C'est différent. Je peux plus le comprendre en équipe de France qu'avec le PSG.
Oui, mais
en équipe de France, il avait
fait
quand même
la personnalité.
Ton pays,
non, avec
tu vois,
de France,
tu
il avait quand même fait tous les matchs de préparation avec les Bleus. Et la dernière minute, il n'a pas été prévenu par Deschamps. Donc, il s'attendait à voir son nom à la télé. Donc, il s'est retrouvé un petit peu comme un con à voir qu'il n'y est pas. Donc, voilà, c'est un gamin quand même qui a 22 ans. Qui peut réagir sous le coup de l'émotion en se disant vas-y, je me suis senti trahi, je ne viens pas. Et je pense que c'est pas qu'il est pas patriotique ou quoi, c'est juste qu'il s'est senti un petit peu sans être vulgaire, il s'est senti un petit peu lésé par Didier Deschamps qui lui a un petit peu mis à l'envers. Donc je pense que c'est plus une affaire d'homme qu'une affaire de patrie.
Non, parce que à ce moment-là, tu mets ton ego de côté à un niveau aussi élevé. Là, on parle de coupe du monde,
très immature,
on parle de...
hein.
Ben ouais, mais justement, ben là, on le voit. Et donc, ça continue sur cette lancée-là. Donc, à un moment donné, t'agaces ton club.
Bien sûr.
T'agaces pas que ton club, parce que voilà, on sait très bien, j'ai parlé de ça, mais en vérité, ce n'est pas lié. Mais voilà, son comportement, il agace beaucoup. Donc, après, derrière, si on n'en veut pas en équipe première, si on n'en veut pas, tu vois, si vraiment il est désiré par un autre club, que cet autre club l'a vu la situation, à mon avis il pose juste 10 millions sur la table,
même 5
tu vois, donc finalement c'est qu'il est pas si
gratuitement aussi,
ouais, mais je pense pas, on n'est pas à 10 millions. Je pense que là, si vraiment il y a les vrais gros clubs dont on parle, Barça, je sais plus quel autre club on a évoqué
Barça.
Pour lui, mais Barça, ça revient souvent, voilà.
De toute façon,
on aura
l'occasion d'en reparler.
Ils ont fait signer Prince Boateng, hein, le Barça. Donc, à un moment donné,
c'est assez épisodique.
Est-ce que Rabiot, c'est vraiment...
C'est assez épisodique, finalement, ce dossier Rabiot. On aura l'occasion d'en reparler dans Thaï Sport. On va parler d'une nouvelle qui s'est répandue comme une traînée de poudre dans le monde entier. C'est évidemment l'avion transportant l'attaquant de Cardiff, voilà, celui qui a été récemment transféré de Nantes à Cardiff, c'est Emiliano Sala, qui a été porté et disparu depuis 21h lundi soir. Et depuis les dernières nouvelles qu'on a, c'est que pour le moment on n'a pas le moindre trace de l'appareil. Et voilà, l'attaquant argentin qui est toujours disparu, et c'est évidemment une nouvelle qui émue beaucoup de personnes dans cette
plateforme. Il était seul dans cet avion?
Il n'était pas seul.
Non.
C'est un jet.
Mais sur les dernières infos, Guillaume, en tout cas de ce que j'ai pu lire un petit peu partout sur Internet, c'est qu'il avait émis des réserves sur le vol. Il avait des doutes sur la qualité de l'appareil, puisqu'il est venu avec cet avion-là de Cardiff. En fait, pour refaire un petit peu l'historique pour nos auditeurs, il est allé à Cardiff, donc signer son contrat, etc. Il avait laissé quelques affaires à Nantes et il voulait aussi saluer ses coéquipiers parce qu'il n'avait pas eu le temps. Donc il est revenu avec cet avion de tourisme, donc un petit peu un avion rudimentaire. Il a passé la journée avec ses coéquipiers, il a mangé avec eux et donc il devait retourner avant la soirée à Cardiff. Et donc quand Nicolas Palois, qui est son coéquipier au FC Nantes, l'a accompagné sur le trajet, apparemment il lui aurait confié ses doutes quant à la sûreté de l'appareil. Et c'est vrai que quand on voit qu'il part avec un appareil un peu un avion de tourisme, on se dit le mec n'a pas peur quand même, tu vois, pour faire cet avion. Il aurait pu faire peut-être Nantes-Rennes en avion, mais de là à faire Cardiff, c'était risqué et malheureusement il a pris le risque et on en connaît les conséquences.
Et voilà, et sur aux dernières nouvelles, évidemment la police de Guernesey qui est proche de l'endroit où l'avion aurait disparu du radar, assure qu'il ne pas avoir trouvé la moindre trace de l'appareil, tandis que le chef des opérations de recherche de Channel Airlines RSH, qui dépose de deux hélicoptères, est encore plus pessimiste en disant voilà, on a toujours pas de nouvelles. Bon, après on aura forcément, est-il mort ou pas, en tout cas évidemment il venait d'être transféré, comme tu le disais,
il venait d'être transféré pour 17 millions à Cardiff City, qui jouait le maintien, donc il comptait énormément
c'est
sur
chaud.
Lui faut savoir qu'à Nantes c'était le meilleur buteur du club, 12 buts en 19 rencontres de Ligue 1. Lui il avait pas nécessairement envie de partir de Nantes, il a été un petit peu poussé vers la sortie, alors que son coach Vahid et les supporters voulaient le garder. Malheureusement, il est parti. Et là, pour Cardiff, c'est un coup dur sportivement, hein, au-delà du désastre humain, puisqu'il comptait vraiment sur lui pour se maintenir en première ligue. Donc là, c'est vraiment beaucoup, beaucoup de chagrin et de problèmes.
Et oui, et on aura le temps d'en reparler dans les prochaines émissions, puisque évidemment, il y aura des rebondissements. Restez connectés sur Beurre FM et sur Time Sport. Dans quelques minutes, on va parler évidemment de carrière des sportifs avec notre invité Tony Sonde, cofondateur de AC Link. On parlera également de Leonardo Jardim, qui est toujours présent à Monaco et qui justement affirme que son avenir d'entraîneur passera par un nouveau club français. Restez connectés sur Beurre FM, on se retrouve dans quelques instants.
Time Sport revient dans un instant. Beurre FM, 18h-19h, Time Sport avec Bilal Nedman.
Et on est de retour sur Beurre FM et sur Time Sport avec vos consultants Saïd Hamda, Mehdi Perplex et notre coach Tollet qui nous fait le plaisir de nous accompagner ce soir. Évidemment, on a parlé du Paris Saint-Germain et de Adrien Rabiot. Et maintenant, on va parler d'une agence de management de carrière de sportifs avec notre invité Tony Song, cofondateur de AC Link. Bonsoir Tony. Bonsoir Tony.
Allô?
Allô, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est Beurre FM, évidemment, c'est pour qu'on puisse parler de votre agence de management de carrière de sportif. Déjà, merci d'avoir accepté notre invitation. Et donc, votre plateforme, elle se présente, voilà, comment? Expliquez-nous un peu.
Déjà, dans un premier temps, merci pour l'invitation aussi.
Merci.
Nous sommes une agence de management à 360 degrés. On s'occupe des joueurs de football depuis leur jeune âge jusqu'à la carrière professionnelle à 360 degrés.
C'est-à-dire, expliquez-nous, c'est-à-dire que comment est né d'ailleurs AC Link plus précisément?
Comment est né AC Link? C'est en fait, moi j'ai ma meilleure amie qui était la attachée de presse de Samuel Eto'o, Hazard, Schneiderlin et autres. Et à travers cela, j'ai pu observer longuement le professionnel sportif au niveau du football. Et l'idée était de ça, tout simplement, de pouvoir accompagner les joueurs sur tous les aspects de leur vie, quel que soit un aspect professionnel, mais de la vie privée aussi.
Et donc on parlait à l'instant de Adrien Rabiot, justement, c'est pas vous, vous êtes plus justement un chercheur, on va dire une plateforme qui recherche les nouvelles pépites, les nouveaux joueurs, c'est ça?
On est une plateforme qui recherchons les nouveaux joueurs, les nouvelles pépites, effectivement, pour pouvoir les accompagner, leur proposer des solutions et les amener à essayer de réussir une carrière, surtout leur dire déjà que c'est difficile, voilà, et qu'on peut les amener, les aider, mais c'est pas pour autant qu'ils réussiront une carrière. Et il y a des obstacles qu'il va falloir gérer. Et donc on est là pour les aider.
Il y a notre consultant Saïd Hamda qui veut vous poser une petite question.
Oui, bonsoir. J'en profite bonsoir. Que vous soyez avec nous en tant qu'expert de gestion de carrière et pour vous parler du coup d'Adrien Rabiot. Vous, quel regard avez-vous sur la gestion de la carrière de Rabiot par sa maman? Et à la place de sa maman, vous, quel choix vous auriez opéré?
Il faut savoir une chose, c'est que la famille, c'est important pour aider les sportifs, mais je trouve que chacun doit avoir sa place. Et moi, ce que j'aurais fait, j'aurais conseillé dès le départ à la maman d'Adrien Rabiot de pouvoir gérer le dossier différemment, de s'entourer, je ne sais pas si c'est le cas, de s'entourer de conseillers, mais de ne pas aller au conflit avec le PSG. Parce que le cas Rabiot n'a pas commencé qu'avec le PSG, avec cette histoire du PSG, mais ça, comme vous l'avez bien dit, ça a commencé aussi avec l'équipe de France. Voilà. Donc la mentalité fait que aujourd'hui il n'est pas apprécié.
Et donc évidemment, comment est structuré votre réseau, votre maillage territorial sur AC Link?
Nous on travaille dans le monde. Il y a des professionnels, des anciens joueurs de foot, il y a des agents, il y a des préparateurs physiques. Je travaille notamment avec le posturologue kiné de Pogba, l'ancien préparateur physique de Pogba. Donc on essaye d'apporter dans chaque domaine, à chaque instant, des éléments de réponse vis-à-vis de nos joueurs.
Et vous êtes propriétaire d'un club au Cameroun. Parlez-nous un peu de cette aventure et expliquez-nous ce qui vous a conduit à finalement faire cet investissement. Et puis également, vous devez garder des relations avec les clubs pro que vous fréquentez au quotidien.
Alors, dans notre agence, dans l'agence Estiling, il y a un ancien joueur de Bundesliga qui est camerounais et qui a eu la chance de devenir footballeur professionnel grâce au...
On peut avoir son nom ?
Zadi Bekele. C'est un ancien footballeur et qui s'est blessé. Donc, il s'est blessé et sa blessure l'a écarté du monde professionnel. Et il a eu pas mal de galères. Donc, on s'est dit, pourquoi pas aider des jeunes joueurs à pouvoir trouver, je dirais, un point d'appui dans le domaine du football. Parce que c'est tellement difficile, surtout en Afrique. Et d'où est venue l'idée de créer le club OBB Olympique de Byumbané pour aider les jeunes footballeurs à pouvoir atteindre leur objectif et surtout leur éviter les pièges de l'Europe. Parce que beaucoup imaginent pouvoir venir en Europe que c'est facile. Et comme vous devez le savoir, il y a beaucoup de joueurs africains qui sont venus en Europe et qu'on a délaissés.
Merci Tony Sonde pour cette interview accordée à l'équipe de Thaï Sport. Je rappelle qu'on pourra retrouver l'intégralité de cette interview et de l'émission sur le site beurrefm.net. Donc voilà, et puis on vous souhaite que du bon évidemment avec votre agence de management de carrière de sportif AC Link. Merci à vous, excellente soirée.
Merci beaucoup. Merci.
À bientôt.
Après avoir parlé de la gestion des carrières de sportifs avec notre invité, on va parler de Leonardo Khaldim et c'est l'heure de la victoire de Monaco.
Time Sport, la victoire.
Et pour cette victoire, on va parler de Leonardo Khaldim qui est encore présent à Monaco où il habite toujours et qu'il affirme que son avenir d'entraîneur...
Je crois que je te perturbe un peu, Guillaume.
Tu m'as perturbé. Dis-moi ce que tu veux me dire.
Non, je ne veux pas accrocher.
La prononciation, c'est ça.
Oui, c'est parce que...
On a compris.
À BFM, j'ai l'impression, Guillaume, que tu as tendance à arabiser les noms. Il a dit Leonardo Khaldim. J'ai dit non.
Leonardo Khaldim.
Khaldim.
Balotelli à l'OM.
Oui, Balotelli à l'OM. Tu fais bien de le. Tu fais bien de.
C'est pas officiel.
De rappeler. Si, il y a un accord. Ça y est, avec
l'Olympique. Qui a été fait. J'ai reçu un coup de fil.
Avec l'Olympique de Marseille. Mais ça, c'était prévu.
Moi, je veux le voir noir sur blanc.
Nice m'a en parlé hier, évidemment. Ça va être pour jusqu'à la fin de la saison, pour Mario Balotelli. En tout cas, on revient sur le sujet principal qui était justement Leonardo Khaldim qui est encore présent à Monaco où il habite toujours et il affirme que son avenir d'entraîneur passera par un nouveau club français. Cela peut-il être l'ASM qui l'a remercié en octobre, Saïd?
Ce serait un petit peu culotté de l'ASM quand même de le rapatrier comme ça si rapidement après. Après bon, ils l'ont viré de façon un petit peu classe, ils l'ont remercié, ils l'ont pas jeté n'importe comment. Mais c'était quand même en cours de saison et ça, Khaldim ne doit pas l'oublier. Surtout que aujourd'hui, venir à l'ASM, c'est pas le meilleur plan de la planète. Le club est en difficulté, avec un effectif difficile. Du coup, c'est pas l'idéal pour Jardim. C'est vrai que c'est très perturbant d'entendre ma voix en double, mais je vais continuer quand même. Quand j'ai lu ça, Jardim à 80% dans un club de Ligue 1, spontanément, j'ai pensé à l'Olympique de Marseille. L'Olympique de Marseille, parce que voilà, Rudy Garcia n'est plus le bienvenu, qu'il tient là-bas grâce à Jean-Marc Ayrault qui ne veut pas le virer parce que ce serait un désaveu et pour lui et pour Rudy Garcia, et surtout parce que Rudy Garcia coûte 10 millions. Donc si demain l'OM est disposé à poser cette somme sur la table, Jardim devient une option crédible.
Donc après Balotelli, toi tu vois Jardim justement à l'Olympique de Marseille. Mehdi, est-ce que
pas
tu...
Pas tout à fait. Juste dernière chose et après j'arrête de monopoliser la parole. Je le vois soit à l'Olympique de Marseille ou soit à l'Olympique Lyonnais, puisque Pinizavi a pris contact avec Bruno Genesio et apparemment il lui cherche une porte de secours. Et on sait que Bruno Genesio est très décrié par les supporters et soutenu par Jean-Michel Aulas, mais les soutiens de Jean-Michel Aulas, voilà, c'est des soutiens publics. On se souvient, il avait dit à propos de Rémi Garde ou Claude Puel, je le soutiens à 100%, et une semaine plus tard, il n'était plus là. Donc, c'est soit l'Olympique de Marseille, soit l'Olympique Lyonnais, à mon humble avis.
Mais
dis-moi.
Eh ben non, c'est à toi de nous dire où va aller Leonardo Jardim.
Tu vois, Jardim, il l'a redit.
Ah, alors, Leonardo Jardim, portugais, on... Voilà. Ça reste
excuse-moi,
qui signifie littéralement jardin.
Mais ça, c'est voilà. Magnifique.
On a des gens qui sont bilingues dans l'équipe.
T'as bien préparé ta chronique. Allez.
Je n'ai pas préparé ça, mais bon, le portugais, je le maîtrise assez bien. Je
les auditeurs l'auront compris. Voilà, maintenant, on veut savoir où va aller Leonardo Jardim.
Donc, il va partir normalement, certes, on ne sait pas, mais il aurait annoncé qu'il voudrait rester en France. Il y a quelques jours de ça, on parlait de lui, oui, peut-être à Manchester, peut-être en Chine, peut-être machin. Il a refusé, soi-disant, la Chine. Il veut revenir, mais en France. Ça, c'est dire.
Il y a peut-être Nantes aussi.
Mais après, je pense que s'il revient en France, c'est pour aller dans un club quand même voilà, qui pèse. Je l'imagine où ? À Marseille.
Il est déjà en France.
Ou à Lyon, si notre ami venait à plier bagage.
C'est vrai que possiblement Marseille, c'est à côté de Monaco. Ils sont dans une période où on parle de plus en plus de changer l'entraîneur. Donc oui, pourquoi pas ? On va demander à notre coach.
Bah écoute, moi je pense que José Leonardo Nunes Alves Souza Jardim.
C'est beau ça.
Lui, tu vois, lui mérite la médaille.
J'essaie de lire, je suis resté une heure et demie dessus. non, alors plus sérieusement, c'est vrai qu'on entend dire oui, Jardim, il n'a peut-être pas le profil pour entraîner Marseille parce que quand on le voit à la télé, il a l'air d'être. Non. Jardim, moi je pense que je suis d'accord avec Saïd. Je pense que ce serait soit Lyon. Soit Marseille, Lyon, parce qu'il y a quand même une structure, il y a quand même une certaine cohésion, une cohérence dans ce club avec un grand centre de formation. On sait qu'il aime travailler avec les jeunes. Et puis, je pense qu'il a aussi le profil pour Marseille. Alors moi, j'entends aussi dire oui, il n'a pas le profil parce que voilà, mais je pense qu'il a le profil pour Marseille. Déjà, il faut savoir que c'est un grand fan de l'OM. Il a été bercé par l'OM des années de tapis. Et donc lui, il a grandi en tant que Portugais avec cette demi-finale contre le Benfica et la victoire en Ligue des Champions, notamment. Et il le dit, il a souvent souligné que s'il avait été joueur pro, il aurait aimé jouer à Marseille. Maintenant, alors peut avoir peut-être son salaire qui peut être un frein. Il faut savoir qu'il touche quand même autour de 400 000 nets, ce qui est pas mal. Mais on voit qu'il a refusé quand même les offres de Chine. Qui lui proposait plus, donc ça veut dire que pour lui, sa priorité serait d'avoir un challenge sportif ouais. Intéressant.
Et donc pour toi, Marseille, potentiellement possible
S'il se donne les moyens, oui, ce serait un entraîneur idéal, que ce soit pour Marseille ou pour Lyon, de toute façon. Enfin,
n'importe quel club français, en vérité.
Technicien, enfin, c'est juste c'est du très très haut niveau, quoi.
En tout cas, pour le moment, il est toujours à Monaco, il cherche un club, donc si jamais on nous entend en même temps sur l'antenne de Beurre FM, parce que voilà, on était juste avant avec un cofondateur d'une agence de management de carrière sportive, donc pourquoi pas. Tu voulais rajouter quelque chose
Claude. Pour ça, en Jardim, il faut savoir que il a pas froid aux yeux. C'est un gars qui a jamais été joueur pro, qui a été entraîneur très tôt. Il a quand même entraîné l'Olympiakos à 35 ans. Donc faut le faire là-bas chez les Fadars. Donc je pense qu'il a voilà, il aurait pas peur de relever le challenge soit lyonnais soit surtout au contexte difficile marseillais.
En tout cas, on aura l'occasion de reparler de Leonardo Jardim. J'ai pas le nom complet. Tu nous l'as refait rapidement là.
Il a plus Wikipédia sous les yeux.
J'ai pas besoin de Wikipédia. Leonardo Nunes Alves Souza.
Ah, Jardim. Ça c'est beau ça. Ouais.
Tout ça c'est dans le petit calepin.
Tout ça c'est dans le calepin.
Il a tout écrit.
C'est noté, c'est travaillé.
Très bon journaliste. Claude Tollet.
Très bon journaliste. Ça on le garde en mémoire. Allez, on en reparlera dans prochaines émissions. En tout cas, restez avec nous sur Beurre FM parce qu'on va parler de la Liga et d'Ancelotti qui affirme je dois tout à Zidane. On parlera également de Mourinho qui dit avoir déjà refusé 3 propositions après son éjection du banc de Manchester United. On se retrouve dans quelques instants sur Beurre FM.
Time Sport revient dans un instant. Beurre FM, 18h-19h, Time Sport avec Bilal Nedman.
Nous sommes comme toi, pas connaisseurs, nous sommes trompés sur son prénom.
C'est-à-dire, tu t'es trompé sur son prénom, mais attention, on est de retour sur Time Sport, chers auditeurs, chères auditrices de Beurre FM.
C'est une introduction inédite.
Voilà, c'est une introduction un peu inédite pour le moins. On a parlé évidemment du Paris Saint-Germain et d'Adrien Rabiot. On a parlé aussi de l'agence de management de carrière de sportif AC Link avec son invité Tony Sonde. Et enfin de Monaco et Leonardo Jardim.
Non, Jardim.
C'est
un J. Tu n'es pas en Espagne.
Tu peux pas dire Jardim comme dans le Limousin, comme dans le monde.
Non. Jardim.
C'est comme au Portugal.
C'est bon.
Jardim.
J'ai compris.
Leonardo
Khabib,
quand on parle de Khabib, il a dit Khabib.
Non, attends.
Non, mais je me moque pas.
C'est un mélange.
En tout cas,
on va parler du duel maintenant. Tout de suite, c'est la Liga.
Time Sport. Le duel.
Rigole.
Là, c'est plus simple pour Ancelotti. Bon, Ancelotti l'affirme aujourd'hui, je dois tout à Zidane. Est-ce que toi aussi, Mehdi, tu dois tout à Zidane?
Ouais, je pense qu'on doit tous tout à Zidane. Parce que Zidane, c'est un monument, c'est quelqu'un de très, très important dans le football.
Est-ce que t'as pleuré devant ta télé en 98? Ça intéresse, les
gens. Je n'ai pas pleuré devant ma télé, j'ai fait la fête comme un fou. Alors, c'était fabuleux, hein. J'étais dans les rues en train de m'amuser, narguer les Brésiliens que je voyais passer. J'avais 11 ans.
Quand même.
Eh ouais. J'avais 11 ans, j'ai pu voilà. Par contre, oui, c'est vrai que
c'est pyrotechnique,
toi, par contre,
c'est pyrotechnique.
Moi, il faut vraiment
tout,
le dire à l'antenne.
T'étais tout petit.
Moi, j'ai vraiment pleuré.
T'as pas vécu ce truc-là.
Parce que j'avais 2 ans, donc il y avait une chanson.
Toi, c'était un peu moins pyrotechnique.
C'est cruel. J'avais 2 ans.
C'est dingue. Hein.
En tout cas, quel vibrant hommage venant de surcroît d'une des légendes du football mondial, les plus titrées, aussi bien en tant que joueur de Ligue des Champions avec l'AC Milan en 1989 et en 1990, que comme coach de Ligue des Champions en 2003 et 2007 avec l'AC Milan et une avec le Real Madrid en 2014. Pour ne résumer que les titres majeurs. Hein. Bon, je m'arrête là parce que la biographie elle est assez longue.
Alors là où Ancelotti dit Zidane, je lui dois tout parce qu'il m'a fait changer ma vision de jeu. Il parle pas de lui en tant que coach et à l'époque où il l'a eu en adjoint. C'est plutôt à l'époque où il l'a eu comme joueur. Alors il dit ça car lui il fonctionnait pas avec un 10. Il n'avait pas de 10. C'était son schéma de jeu. Il n'incluait pas de 10. À l'époque il entraînait à Parme et ils ont voulu lui faire signer Roberto Baggio.
Roberto Baggio.
Ah, avec cet accent en plus. Roberto Baggio.
Un très grand numéro 10 italien. Voilà. Maintenant, lui refuse à bloquer le truc. Le truc était déjà dealé avec Parme. Sauf que lui dit, voilà, moi, dans mon schéma, j'ai pas de 10, je ne serai pas le maître. Et lui, Roberto Baggio, il voulait juste simplement jouer à ce poste. Donc, c'était pas possible pour lui de composer avec un joueur pareil. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'il a fait avorter le transfert de Roberto Baggio à Parme. Il est ensuite arrivé à la Juve par les années qu'on suit. Et là, il a rencontré Zidane. Et en fonction de Zinedine Zidane qu'il avait sous ses ordres et le joueur fantastique qu'il était, il s'est dit bon, c'est simple, on va le mettre à ce poste-là et on va lui tailler un costume sur mesure autour de lui quoi. Donc il a placé des joueurs qui étaient en fait si tu veux il a mis l'équipe autour de lui.
C'est rare d'avoir quand même des ce genre de déclaration parce qu'en général, au football, on tire un peu plus la couverture vers soi et c'est rare d'avoir, évidemment, bon, surtout hein, ces deux grands joueurs qui se renvoient la balle, hein, d'un côté Ancelotti, de l'autre Zinedine Zidane.
Bien sûr.
Claude, tu veux rajouter quelque chose par rapport aux déclarations ou par rapport à l'analyse?
J'ai tout dit.
Il a tout dit, mon ami.
Il a été très synthétique, concis, parfait.
Non, franchement, il a tout dit. C'est vrai que Ancelotti, lui, il est resté sur le 4-4-2 d'Arrigo Sacchi, qui lui, déjà, avait révolutionné le football moderne italien avec le grand Milan AC, fin des années 80-90. Donc, il est resté là-dessus. Et c'est vrai que Roberto Baggio, l'un des plus grands joueurs de l'histoire du football italien, voire numéro 10 aussi, il s'en est privé. Et voilà, enfin bon, Mehdi l'a dit, hein, Zidane est arrivé, donc là il a adapté son style de jeu en fonction de l'animation, en fonction du talent de Zidane. Et Zidane est devenu après le joueur que l'on sait derrière. Mais après, t'as deux aspects quand t'es coach. T'as ces coachs qui ont une animation de jeu et aux joueurs de s'adapter. Et puis t'as ceux,
qui
composent en fonction de la qualité aussi des joueurs. Et ça l'a fait évoluer dans sa carrière aussi d'entraîneur.
Je pense que c'est là que tu reconnais les grands coachs. C'est ceux qui composent avec ce qu'ils ont, tu vois. C'est pas on arrive dans un club, on arrive en juin, on se dit bon, ok, juin, juillet, tu sais, période estivale, c'est les transferts. Et là maintenant, je vais composer en fonction de mon schéma et de ma vision de jeu et de mon football. C'est bien de le faire, hein, c'est super. Mais quand tu arrives dans un club, un peu comme Thierry Henry là, qui arrive dans un club avec des joueurs bon un peu blessés partout machin et tout, il n'a pas choisi ses joueurs, il arrive, il doit composer une formation, créer un collectif, rendre un schéma de jeu qui va proposer du jeu, mais pas forcément, mais des résultats surtout
créer un collectif derrière lui. Et là où il connaît pas forcément les joueurs, c'est bien
difficile
de le rappeler.
Et c'est là où tu reconnais les grands coachs, tu vois.
Ouais. On peut prendre l'exemple de Jardim, qui a été critiqué à son arrivée, inconnu en France, hein, moqué même par moment. Il a fait avec ce qu'il avait dans un premier temps. Alors c'est vrai qu'il est à Monaco et pas un jeu flamboyant, mais dès qu'il a vu que il avait la possibilité de pratiquer du beau jeu, on a vu un Monaco il y a deux saisons. Voilà, il l'a fait, donc il s'est adapté. Ça là, c'est la marque des grands entraîneurs, quoi.
Et donc l'entraîneur du Napoli, évidemment, bon, il y a eu des réactions sur ses déclarations, mais ne donne pas le tel encore plus de relief au parcours de Zinedine Zidane, qui n'est qu'à l'orée finalement de sa nouvelle carrière, lui dont les quelques esprits chagrins indiquaient encore récemment que après la conquête de la troisième Ligue des Champions d'affilée, qu'il ne s'agissait que d'un concours de circonstances, étant donné qu'il avait à sa disposition les meilleurs joueurs dans la meilleure équipe du monde. Saïd,
je pense, Guillaume, tu veux faire exploser le standard, c'est ça ton objectif. Tu peux pas dire que gagner 3 Ligues des Champions, c'est un...
Je ne le dis pas, je suis en train de reprendre des phrases.
Oui, des réactions.
Des réactions, voilà.
Non, mais quand je dis tu peux pas dire, je parle pas de toi précisément, mais cette phrase-là n'a pas lieu d'être.
On en a remué, hein, ça y est.
Non, mais pourtant...
J'entends que Yacine, notre ami consultant, vient de quitter...
la conversation, ça y est.
Il arrive en courant dans les studios.
Il arrive.
On parle de Zizou, attends, forcément.
On peut pas dire 3 Ligues des Champions, c'est des circonstances favorables ou pas. Honnêtement, moi, quand j'ai vu Zidane intronisé au Real Madrid, je vais être très franc, j'y croyais pas trop. J'avais pas confiance
en
lui.
Tu ne crois pas en Zinedine Zidane, c'est ce que tu entends dire.
Mais non, mais il était petit, comme il vous l'a dit, il était petit en 98, il ne comprend pas.
Non, quand on a viré Benitez, je me suis dit, ah, c'est chaud quand même, il a pas d'expérience. Ah là, il avait fait qu'un poste d'adjoint. Je me suis dit, est-ce que ce serait pas peut-être le cramer alors qu'il y a du potentiel, tu vois. Je me suis dit, c'était pas une bonne idée. Bon, il a gagné la Ligue des Champions en 6 mois. J'ai dit,
il a mis tout le monde d'accord.
Bon, allez, ça y est, tu vas la fermer. Donc, ensuite, il a réitéré l'exploit l'année suivante et l'année d'après. Et ça, tu peux que saluer. Des coachs qui ont des grandes équipes, il y en a plein. Guardiola, quand il était à la tête du Bayern, il avait une équipe taillée pour gagner la Ligue des Champions et il ne l'a pas gagnée.
Et là, tu t'es dit, je crois en Zinedine Zidane.
Non, j'ai toujours cru en Zidane en tant que joueur. Mais après, en tant qu'entraîneur, je fais pas partie de ceux qui croit pour croire. On donne la confiance, ça se donne pas, ça se mérite. Et il a obtenu au bout de 6 mois. Donc je fais pas partie de ceux qui donnent la confiance pour un passif. Donc il m'a montré en 6 mois que j'avais tort de pas lui faire confiance et je lui ai fait confiance par la suite.
La transition est toute faite. Il est 18h50, les amis. Je suis désolé, on aura le temps d'en reparler évidemment de Ancelotti. Le mot de la fin.
Attends, il lui avait envoyé un message d'ailleurs. Zizou t'avait envoyé un message. Il dit, tu vois, ça y est, je l'ai fait.
Et il m'a dit, petit frère, la prochaine fois, fais-moi pas confiance.
Ah, mais ce genre d'anecdote, surtout, faut pas passer à côté. D'ailleurs, on comptera sur toi pour l'avoir dans Time Sport bientôt, Zinedine.
Je vous l'amène en février,
Zinedine Zidane, on compte sur toi. En tout cas, après avoir parlé d'un entraîneur, voilà, évidemment, l'entraîneur du Napoli, Ancelotti, on va parler d'un autre entraîneur, Mourinho, et c'est l'heure du mode pressing.
Time Sport, le mode pressing.
Et oui, Mourinho qui dit avoir déjà refusé trois propositions, viré du banc de Manchester United en décembre, au début décembre. José Mourinho est encore loin de la retraite. Il a déclaré, j'ai déjà refusé trois propositions, ça ne me satisfait pas. Donc, qu'est-ce qui pourrait satisfaire l'entraîneur portugais de 55 ans, Saïd?
Déjà, je pense à un gros club, parce que jusqu'à preuve du contraire, il n'a pas précisé les trois clubs qu'il a refusés. Hein, parce que s'il a refusé Guangzhou, Béjaïa et Lorient, il n'y a rien d'héroïque là-dedans. Hein, c'est qu'il a refusé, à mon avis, trois clubs de standing moyen qui se sont dit qu'il était dans une phase de transition et qui se sont essayé de l'accaparer. C'est peut-être pas bête de la part de ces clubs-là. Maintenant, il a pas refusé le Real Madrid, il a pas refusé le Barça.
Il a peut-être refusé Marseille.
Il a peut-être refusé Marseille. Mais ce qui est logique au vu de la qualité de l'entraîneur et de sa stature, voilà, j'ai refusé trois clubs. Il veut aussi se donner de la valeur sur le marché de l'emploi, ce qui est normal. Donc à partir de là, je vois pas. C'est pour moi, c'est de la pure communication de la part de Mourinho.
Quelle est la bonne proposition pour José Mourinho, puisqu'il en a déjà refusé trois. Donc
ouais,
selon
Mourinho,
toi,
il ferait bien de revenir dans un club où il y a un vrai, si tu veux, il y a un vrai challenge sportif. Pas revenir dans un club clinquant où tout est déjà là et que, enfin, entre guillemets, parce qu'on sait très bien qu'on gagne des Ligues des Champions, on gagne des titres avec un collectif, pas avec des joueurs qui sont déjà stars et qui sont en place. On peut, hein. Mais je pense que c'est un collectif qui amène à la victoire.
Donc toi, ce serait des clubs de quel standing, du coup?
Mourinho, il peut revenir dans un grand club, certes, mais après...
Mais toi, tu lui conseillerais...
Pour qu'il casse encore une dynamique qui est déjà installée, il faudrait qu'il prenne un club qui est dans une certaine recherche et où il y a un vrai challenge sportif. Là, je pense que ça lui correspondrait plus et ça redorerait son blason parce que maintenant, on le voit trop aigri.
En tout cas, non.
Comme l'Olympique Lyonnais, pourquoi pas, mais encore lui.
Après,
je pense même carrément moi à des clubs, tu vois, même le FC Porto qui pourrait reprendre ou tu vois ce genre de revenir aux vraies bases et aux vraies à ce qu'il a
fini avec Mehdi et après on passera avec Claude.
Juste lui répondre puisque comme c'est dans l'interaction et
allons-y
très rapidement.
Je pense que c'est une mauvaise idée pour une simple raison, c'est que des entraîneurs qui étaient très cotés sur le marché, comme Benitez, qui passe du Real Madrid à Newcastle, ou Ranieri, qui a fait Chelsea, Leicester, après, à partir de Leicester, il a repris une très grosse cote de popularité, il va à Nantes. Ces joueurs-là qui vont dans des clubs de standing beaucoup moins clinquants, ben finalement, ils s'enterrent et du coup, ils arrivent à perdre leur notoriété, puisqu'ils signent dans des clubs inférieurs, donc ils ne sont pas médiatisés de la même façon, ils n'ont pas les résultats que les grands clubs ont, et du coup, ça les dessert sur le long terme. Et
oui,
c'est mon avis.
Quand t'es coach.
Je voulais juste avoir.
C'est ça.
Ranieri aussi avait un nom, et Benitez.
Non, mais attention, Ranieri, c'est un autre.
Il a vraiment quand même.
Les autres aussi.
Je voulais juste savoir.
C'est quand même un cran au-dessus.
Je voulais juste savoir par rapport à justement cette sortie de Mourinho. Est-ce que c'est un énième coup de bluff, comme disait justement Saïd à l'instant, ou un coup de com', voilà, de Mourinho, finalement, il n'y aura rien? Tu le vois comment, cher coach?
Je pense qu'il rebondira. Il a que 55 ans, comme tu l'as dit. Hein, donc,
ça reste jeune pour un coach, bien sûr.
Ça reste jeune. Moi, j'entends souvent que oui, il est dépassé. Il a peut-être des manières de faire. Moi, personnellement, j'en sais rien. Je suis pas dans.
Mais on voit qu'il est gris. Pas... On le voit bien.
Oui, mais bon, après, je pense que c'est un gars extrêmement intelligent, même s'il a un ego surdimensionné, qui est capable de se remettre en question. Honnêtement, quasiment tous les clubs au monde aimeraient l'avoir.
Est-ce que la méthode. Non, alors attends. On va reposer la question différemment. Est-ce que la méthode Mourinho, elle est arrivée à son terme?
Non, parce qu'il peut se renouveler, Claude.
Elle n'est pas arrivée et de se renouveler. C'est quoi sa méthode?
Quand il est parti de Manchester United, on a vu que ça a fait du bien quand même dans l'équipe et dans le collectif.
Ils ont peut-être aussi mis les choses en œuvre pour qu'il quitte le club, tu vois.
Oui, c'est possible.
Comme par hasard, les mecs, ils sont tout de suite.
Il a toujours gagné.
Autant performant, eux.
C'est bizarre.
Même à Manchester, il a quand même gagné une Ligue Europa et surtout dans ses propos.
Aussi, hein.
Ouais, et ben oui, je dis la Ligue Europa parce que c'est la
grosse compétition. Hein, quand même, hein.
Mais surtout pour Mourinho, on néglige un point qui est important, c'est que Mourinho, lui, il est très proche des joueurs et je pense que là où il va devoir progresser, c'est dans son rapport avec les jeunes. Les joueurs d'aujourd'hui ne sont pas comme ceux d'avant. Aujourd'hui, ils sont plus susceptibles. Dans l'interview, il disait, il y a un joueur cadre de l'équipe, il le citait pas, mais il parlait très probablement de Pogba, qui lui disait. Coach, me critiquez pas en public, critiquez-moi en privé. Il lui a dit pourquoi? Il lui a dit parce que en public, au vu de mon statut, je me sens pas bien. Et alors qu'à l'époque, il y avait pas ça. À l'époque, je me souviens quand il était au Real Madrid, et c'est pas une époque très lointaine, hein, mais quand il disait sur Benzema et Higuain, quand j'ai pas de chien pour attaquer, j'envoie mes chats. Tu vois que.
Mais ça plaisait pas à Benzema non plus. Hein.
Ça lui plaisait pas, mais ça n'empêchait pas Benzema.
Il allait quand même le rappeler
alors. Tu vois ce que je veux dire?
Je suis d'accord avec ça, il faut qu'il se rattrape peut-être.
Il faut qu'il s'adapte peut-être à la mentalité des nouveaux jeunes.
À la mentalité qui est pas forcément la meilleure aussi, franchement. Mais faut qu'il s'adapte à une nouvelle génération. Après, ça reste un des top entraîneurs.
En tout cas, c'est terminé sur Mourinho. Il a dit quelque chose aussi d'important dans son interview. Il disait qu'il n'était pas dans les mêmes conditions que par exemple un Jurgen Klopp. Jurgen Klopp, quand il arrive à Liverpool, on lui a donné quasiment les pleins pouvoirs. On a recruté les joueurs que Jurgen Klopp voulait. Donc il a voulu Alisson Becker, il a eu Alisson Becker. Il a voulu Mohamed Salah, il a eu Mohamed Salah. Donc on a vraiment donné l'opportunité à Jurgen Klopp de s'exprimer.
Pas le même club.
Alors qu'à Manchester United, mais c'est un club qui a de l'argent.
Manchester, il a quand même beaucoup recruté.
En tout cas, il a beaucoup recruté, beaucoup d'argent.
En tout cas, il y a
des problèmes.
Il a beaucoup dépensé.
Il y a des problèmes avec Mourinho dans les vestiaires, ça c'est sûr. Ça, il en parle à l'instant parce que
il a du mal à s'exprimer avec ses joueurs, certainement.
Est-ce qu'il peut retrouver un gros club?
Oui.
Bien sûr.
Mourinho, c'est Mourinho. Tu peux pas lui enlever de sa superbe. Maintenant, le truc, c'est quoi? C'est que aujourd'hui,
on peut se poser la question.
On sait qu'il a une. Mais non, mais on sait qu'il a cette certaine philosophie de foot qui est extrêmement positive parce qu'il gagne des titres et compagnie. Mais derrière, on sait très bien que à l'heure actuelle, il essaie de tirer tout des joueurs. Mais on a vu même à l'Inter, on l'a vu ce qui se passait. C'est qu'il y a un gros problème au niveau de la communication.
Merci à tous les auditeurs et les auditrices d'avoir suivi cette émission. Aux consultants, on se retrouve demain même heure, 18h-19h sur Beurre FM.
Retrouvez Time Sport tous les jours de 18h à 19h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.